Histoire et gastronomie. La chronique de Jean Vito sur Canal Académie.
La révolution et l'invention de la table moderne. Les restrictions jusqu'au 9 thermidor. La Révolution française a entraîné des bouleversements profonds dans l'alimentation et la gastronomie des Français. La chute de Robespierre, le 9 thermidor, marque la césure entre deux époques. La première fut surtout celle des restrictions et de la crainte d'une crise frumentaire, au moins pour le plus grand nombre, sinon pour les élites révolutionnaires. La seconde, après la chute de Robespierre et la fin de la Terreur, fut une explosion de la joie de vivre qui se manifesta notamment à table et s'installa durablement malgré les dernières convulsions de la Révolution. Les prémices de la Révolution furent marquées par trois années de mauvaise récolte en 1787, 88 et 89, liées à un climat froid et pluvieux, détestable pour les récoltes de céréales et de blé qui constituaient la base de l'alimentation de l'Ancien Régime. Ce n'est que récemment que l'on a identifié la cause, l'éruption volcanique en Islande du volcan Laki, voisin de celui qui a récemment défrayé la chronique avec ses rejets de cendres volcaniques dans l'atmosphère, contraignant les avions à rester cloués au sol. Pendant 15 ans, une vaste faille volcanique s'ouvrit et déversa du magma de façon continue sur le sol sous forme de lave et dans l'air sous forme de cendres. C'est ce que l'on appelle en termes géologiques un traps, dont les plus célèbres sont géologiquement ceux du Deccan en Inde, dont les étendues de lave épaisses de plusieurs kilomètres couvrent quatre fois la superficie de la France et que l'on a accusé d'être à l'origine de l'extinction des dinosaures. Dans les années 1780, cette accumulation de cendres dans l'atmosphère fut à l'origine des mauvaises récoltes en France et de la destruction des pâturages en Angleterre qui entraîna la disparition des trois quarts du cheptel ovin. Sous la Révolution, tout commença sous les meilleurs auspices avec les banquets fraternels, où tous les habitants d'une maison mangeaient à la même table dans la rue, quelles que soient leurs conditions. Leur organisation fut assez réussie lors de la fête de la Fédération le 14 juillet 1790, que commémore notre 14 juillet, puis dégénéra à l'origine de bacchanales et de bagarres. La jalousie s'en mêla et ils furent alors organisés par les comités révolutionnaires de quartier. Un témoin nous en décrit alors l'ambiance pesante. Alors, sous peine d'être suspect, de se déclarer ennemi de l'égalité, chacun vint manger en famille à côté de l'homme qu'il détestait le plus. Le riche appauvrit tant qu'il put le luxe de sa table. Le pauvre se ruina pour cacher sa misère. La crainte d'émeutes due à la cherté du pain entraîna de multiples conséquences sous la Révolution. Dans la ligne droite de la politique de Louis XVI, qui avait favorisé Parmentier et sa pomme de terre, la Révolution essaya de promouvoir ce tubercule pour résoudre les difficultés de l'approvisionnement des villes. Ainsi, Marat fit planter les espaces verts parisiens, et notamment les Tuileries, en légumes et en pommes de terre, mais Robespierre les fit arracher. Un livre paru à cette époque, « La cuisinière révolutionnaire », vanta les mérites de la pomme de terre en en détaillant de nombreuses recettes. Mais comme dans toute modification des habitudes alimentaires, les progrès furent lents et la pomme de terre ne commença à s'installer dans notre alimentation que sous l'Empire. La majorité des recettes du terroir à base de pommes de terre ne date en effet que du XIXe siècle. Parmentier, bien imprudent, avait promis à la Convention de faire du pain avec de la fécule de pommes de terre. Il n'y parvint pas, car la pomme de terre n'est pas panifiable, et cela lui valut la vindicte des Parisiens qui ne voulaient pas entendre parler de pommes de terre et réclamer du pain. Il dut faire protéger son laboratoire par la troupe. La République en danger eut toujours peur des réactions des foules affamées et essaya de résoudre les problèmes d'alimentation des grandes villes, et notamment de Paris. Elle taxa, comme sous l'Ancien Régime pendant les crises frumentaires, le pain et les produits de première nécessité par l'édit du maximum, avec comme résultat habituel d'organiser la pénurie, de favoriser le marché noir et la défiance des producteurs. Il fallait faire la queue de longues heures aux portes des boulangeries pour obtenir 2 onces, soit 60 grammes de pain pour 14 sous, d'un pain dont les chiens de berger ne voudraient pas, alors que les revendeurs sauvages le proposaient pour 20 sous. Durant la terreur, le 1er août 1793, le comité de salut public du quartier du Gros Caillou institua des cartes de pain obligatoires pour tous les habitants du quartier, avec interdiction de changer de boulanger et d'acheter un poids supérieur à la norme. Ces premières cartes de rationnement seront promises à un bel avenir. Et pendant ce temps-là, les révolutionnaires s'en donnaient à cœur joie. Robespierre, dont on vante la frugalité, mangeant en 1793 dans la famille Julien qu'il avait reçue à dîner, du lait, de la crème, de pain, des légumes, de la salade huilée et vinaigrée, une poularde, un fromage et du cidre. Le même Robespierre fut traité de sybarite parce qu'il mangeait des pyramides d'orange, fruit encore rare et paré de toutes les vertus à l'époque. Le lendemain de l'exécution de Marie-Antoinette, les membres du tribunal révolutionnaire mangèrent une béchamel d'aileron et de foie gras, une poularde fine rôtie et une douzaine de mauviettes, grives, par personne. Le tout arrosé de vin de champagne à l'hôtel Vauban. Et quand Bacérès, président du comité de salut public et futur archi-chancelier de l'Empire, n'hésitait pas à déclarer. J'ai pour principe que des hommes livrés aux travaux de l'Assemblée et à ceux du comité doivent être pourvus de bonne alimentation, sans quoi ils succomberaient sous le poids de leur labeur. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Les convulsions sociales de la Révolution précipitèrent sur le pavé de nombreux cuisiniers, privés de leurs employeurs, nobles ou membres du haut clergé. En fuite, émigrés, guillotinés ou simplement ruinés. Certains s'exilèrent, d'autres créèrent des restaurants. Les Champs-Élysées, alors non lotis, se couvrirent de guinguettes. Des restaurants de luxe ouvrirent dans Paris, surtout près du Palais Royal, alors appelé Galerie Égalité, comme Méo, mais aussi Favard en 1792, Véry en 1790, à la suite de Beauvilliers qui avait ouvert avant la Révolution. Sébastien Mercier, dans son Nouveau Paris, raconte que les cuisiniers des princes, des conseillers au Parlement, des cardinaux, des chanoines et des fermiers généraux ne sont pas restés longtemps inactifs après l'émigration des imitateurs d'Apicius. Ils se sont fait restaurateurs et ont annoncé qu'ils allaient professer et pratiquer, pour tout payant, la science de gueule, comme dit Montaigne. Le mot gastronomie ne fut en effet inventé par Berchoux qu'en 1802. Les révolutionnaires fréquentaient assidûment les restaurants. Barrère, Mirabeau, Hérault de Séchelles en étaient des habitués. Le lendemain de l'exécution de Marie-Antoinette, Robespierre, Saint-Just et Barrère dînèrent chez Venua, actuellement de rue de Rivoli. Barras italien préférait, quant à eux, le traiteur Ledoyen aux Champs-Élysées. Le succès des restaurateurs fit des jaloux. Ainsi, Beauvilliers fut emprisonné sur dénonciation d'un ancien président du tribunal révolutionnaire, Naudet, qui confisqua son restaurant à son bénéfice. Beauvilliers mit plus d'un an pour récupérer son établissement. Tout était prêt pour l'explosion de joie de vivre et de gastronomie de la révolution thermidorienne, selon le mot de Jean Tullard, qui suivit la chute de Robespierre et la fin de la Terreur. Mais ceci est une autre histoire.